Chapitre 30. Laurel reprend sa voiture à King's Cross et se rend directement chez Anna, où elle nettoie l'appartement de fond en comble. Quand il n'y a plus de ménage à faire, elle ouvre la porte qui donne sur l'horrible jardin avec son parfum écœurant d'été raté. Elle attrape un sécateur et laisse derrière elle des squelettes arboricoles noircis, de la boue, et le vieux barbecue rouillé que sa fille n'a jamais utilisé. Elle n'a pas mis de gants, et ses mains sont rapidement éraflées et rougies, mais elle s'en fiche. Elle se passe de la crème hydratante sur les mains et observe avec satisfaction la pommade qui s'infiltre dans sa chair. Il n'y a pas de fleurs aujourd'hui. De toute façon, Laurel ne s'intéresse plus à la vie amoureuse cachée de sa fille. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Qu'elle ait une copine, un copain, un vieux, une jeune, deux femmes ou un chien, elle s'en moque. Elle peut bien avoir qui elle veut. Anna lui en parlera quand elle sera prête. Tout ce qui semblait si important hier n'a plus aucun intérêt aujourd'hui. Tout ce qui compte maintenant, c'est de digérer cette masse d'informations nouvelles qui lui obscurcit l'esprit. Tout est enchevêtré. Et même si elle sait qu'il y a quelque chose derrière, l'explication est tellement improbable et étrange qu'elle ne sait pas par où commencer pour la trouver. Elle range les 30 livres d'Anna dans son porte-monnaie, referme la porte derrière elle, s'installe dans sa voiture et rentre vite chez elle. En tapant Noël Donnelly sur Google, elle ne trouve pas de résultats bien intéressants. Le monde est apparemment plein de Noël Donnelly, et Laurel est à peu près sûre que si l'enseignante avait voulu disparaître et qu'elle était maintenant physiothérapeute à Chicago, elle ne le proclamerait pas haut et fort sur Internet. Elle affine donc sa recherche. Noël Donnelly, prof maths. C'est déjà plus intéressant. Laurel découvre plusieurs annonces sur des sites comme profparticulier.com ou coursadomicile.com, mais elles ne sont plus actives et il n'y a aucun nouveau commentaire. Noël Donnelly, Irlande. Il y a beaucoup de résultats, mais ce n'est jamais la bonne Noël. Enfin, Laurel tape « Noël Donnelly, disparition ». Le monde ne s'est jamais intéressé au destin de cette femme. Personne n'en a parlé. Il n'y a rien à ce sujet. Elle referme son ordinateur et se gratte l'avant-bras en essayant de se rappeler qui lui a recommandé Noël Donnelly. Quelqu'un du quartier. Une voisine. Elle se souvient de ses chiens. De cet air irlandais qui lui sautait toujours dessus quand elle lui rendait visite, laissant des traces de pattes boueuses sur son pantalon. Mais pas de son nom. Elle ouvre la porte de l'armoire de la chambre d'amis et sort une boîte d'objets de l'ancienne maison qu'elle n'a toujours pas rangée. Elle espère y trouver son vieux répertoire, relique d'une époque où les gens consignaient encore les numéros sur papier au lieu de les rentrer dans leur téléphone. Elle le repère sous d'autres affaires et les feuillettes, un peu atterrée par le nombre de gens qu'elle connaissait à ce moment-là et à qui elle ne pense plus du tout. C'était Suzy, ou Sally, ou Sandy, quelque chose dans ce goût-là. Elle tourne les pages encore plus vite, puis s'arrête soudainement. Il y a un post-it rose accroché à la page S, avec sa propre écriture ramassée, sèche. Le nom, Noël Donnelly. Et un numéro. Laurel se souvient. C'était Sally, oui. Elle l'avait appelé un matin. Ellie a besoin de cours de maths. Tu connais quelqu'un, non? Tu pourrais me donner son numéro? Elle l'avait griffonné, avait détaché le post-it et l'avait collé là. Merci, Sal. Tu m'ôtes une épine du pied. À très vite! Avec les chiens qui aboyaient derrière son interlocutrice. Laurel compose le numéro. Étonnamment, quelqu'un répond. Un jeune homme à l'accent irlandais. « Bonjour, je suis désolée de vous déranger. Je cherche quelqu'un qui avait ce numéro. Noël Donnelly. »«
Ah oui, c'est ma tante, mais personne ne sait où elle est. »
Laurel ne sait plus quoi dire. Elle s'attendait à une ligne résiliée, ou au mieux à quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de Noël Donnelly. Mais elle avait un membre de sa famille au bout du fil. « Oui, je sais. Elle a disparu, c'est ça ?»«
C'est ce qu'on dit. »
Je me demandais. Je connais bien sa fille et son ancien compagnon, et il y a quelque chose... Comment formuler ses doutes? Il y a certaines choses qui m'intriguent à propos de sa disparition. Est-ce que je pourrais passer vous voir?
Qui êtes-vous?
Je suis une amie de Poppy.
Ah oui, la fille qu'elle a eue. Ma grand-mère en parle parfois.
Silence au bout de la ligne. Laurel se demande s'il l'a entendu demander si elle pouvait passer.
Vous pouvez passer si vous voulez. C'est au 12 Harlow Road, une rue perpendiculaire à Stroud Green Road.
Je peux venir maintenant?
D'accord. Je m'appelle Joshua, au fait. Joshua Donnelly.
Et moi, Laurel Mac. Je serai chez vous dans une demi-heure. Harlow Road croise la rue principale à un endroit que Laurel connaît très bien pour l'avoir vu sur les images prises par les caméras de surveillance et diffusées aux infos après la disparition d'Ellie. C'est exactement de l'autre côté de la rue par rapport à la voiture garée dans laquelle sa fille s'est regardée. Le numéro 12 est proche du croisement. C'est une petite maison mitoyenne avec un cerisier bas à côté de la porte. Elle n'est pas bien entretenue. On dirait même qu'elle est abandonnée. Joshua Donnelly ouvre grand la porte et fait un pas à l'extérieur. « Entrez, Laura. Suivez-moi. »«
Laurel.
Oui, désolé. » Il referme la porte derrière elle. Il est petit et très énergique. Il porte un jogging en jersey gris trop grand et un maillot de football rouge et blanc. Il a les cheveux courts et une petite ligne rasée qui part du front. Son visage est charmant, presque beau, avec ses très longs cils.
« Excusez-moi pour l'état de la maison. Je vis ici avec mon frère, on n'est pas très à cheval sur l'ordre, »
explique-t-il en l'amenant au salon. Il y a deux canapés en cuir marron et des meubles en pain verni, avec des reproductions d'art moderne encadrées au mur. Des vêtements sont en train de sécher près de la porte de la cour arrière et sur le dossier des chaises. Il y a des tasses un peu partout et des piles de documents qui ressemblent à des cours. Ce n'est pas aussi terrible qu'on pourrait s'y attendre.
« Tu es le fils de... du petit frère de Noël. Ils sont quatre en tout, quatre frères. Et il y avait deux filles, mais la première est morte quand elle était petite. Et l'autre, c'était Noël. Et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. »
Il enlève des livres de cours du canapé et balaie de la main des miettes qu'il fait tomber par terre, avant d'inviter Laurel à s'asseoir.
« Vous voulez boire quelque chose? Un thé, un coca ?»«
Non merci, ça ira, » répond-elle en s'asseyant.
« Vous êtes sûr? J'ai tout ce qu'il faut. »«
Ça va, merci. » Il se dégage une place sur l'autre canapé et s'assied, les jambes écartées, un genou gigotant.
« Vous avez hérité de la maison ?»« Pas vraiment hérité, non. Ma famille l'a récupérée, si on peut dire. Maintenant, c'est un peu notre pied-à-terre quand quelqu'un est de passage à Londres ou s'y installe pour quelque temps. En ce moment, c'est moi et Samy, mon petit frère.
Ça fait combien de temps que vous êtes là ?»«
Depuis octobre. Je fais mes études à Goldsmith. Je vais rester ici pendant quelques années. Mais avant moi, il y en a eu d'autres. On est 13 cousins en tout. On n'a pas le droit de bouger ou de toucher à quoi que ce soit, par contre. On garde la maison comme elle l'a laissée, ou presque. »
Au cas où elle reviendrait ?
Oui, voilà. On ne sait jamais.
Vous pensez qu'elle va revenir ?
Alors ça, c'est une bonne question,
rétorque-t-il en haussant les épaules.
Vous savez, moi, je ne l'ai jamais rencontrée. Aucun de mes cousins ne la connaît. C'est le fantôme de notre famille. On en entend parler, on a su qu'elle s'était achetée une maison, qu'elle fréquentait un écrivain, qu'elle allait avoir un bébé, tout ça, mais on ne l'a jamais vue. C'est fou, non ?
Il regarde Laurel fixement, en souriant.
Oui, c'est bizarre.
Elle regarde autour d'elle, les étagères en pain pleines de livres, les affiches décolorées par le soleil.
« Alors tout ça, les meubles, les livres, c'est à Noël ?»« Oui, toutes les affaires. À l'étage, dans les commodes, il y a encore ses vêtements. Même ses sous-vêtements. Il y a tout. »«
Personne n'y a jamais touché ? C'est resté en l'état ?»«
Oui. »
Laurel voudrait courir à l'étage pour tout fouiller, pour vider les tiroirs et examiner tous ses documents. « Pourquoi ?» se demande-t-elle. « Qu'espère-t-elle y trouver ?»
À votre avis, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle devait revenir en Irlande. Et elle a emporté son passeport, sa carte bancaire, un sac de voyage, quelques photos. Elle allait quelque part, c'est sûr. Mais on dirait qu'elle n'est jamais arrivée. Son passeport n'a pas été utilisé. Sa carte non plus, depuis des années,
lui raconte-t-il en posant ses mains sur ses genoux.
Hyper chelou.
Vous savez, ma fille a disparu.
Vraiment ?
S'exclame-t-il intrigué. En 2005. Et c'est ici qu'elle a été vue pour la dernière fois, ajoute-t-elle en faisant un geste de la main vers Stroud Green Road. Là-bas, en face du magasin de la Croix-Rouge, par des caméras de surveillance. Il prend un air pensif, et personne ne parle pendant un moment. Laurel se demande à quel moment ce jeune homme avenant l'arrêtera en lui disant qu'elle va trop loin.
Poppy, votre cousine, vous la connaissez ?
Non, personne ne la connaît. C'est la seule qu'on n'a jamais vue. Ce qui est dommage parce qu'il y a une autre cousine de son âge, Clara. Un sacré personnage, franchement. Elles auraient pu être copines. Mais ce type, l'écrivain...
Floyd ?
Oui, lui. Il n'est pas très ouvert et il la garde de près. Il ne voulait rien entendre quand on lui a proposé de l'aider. Je crois que l'un de mes oncles est allé chez lui environ un an après la disparition et a essayé de lui parler. Mais il paraît qu'il a été assez désagréable et lui a clairement dit qu'il ne voulait pas de nous.
Laurel se demande si Poppy sait qu'elle a une famille irlandaise.
Comment est-ce que vous les connaissez, Poppy et Floyd ?
Eh bien, je connais bien Floyd. C'est mon compagnon.
Ah,
je vois, lâche-t-il, un sourcil relevé.
Et j'ai découvert que Noël donnait des cours à ma fille, Ellie, juste avant sa disparition.
Quoi ? Ici ?
Non, elle venait chez nous. On habitait à une dizaine de minutes à pied.
Je vois.
Laurel le sonde du regard un moment, comme s'il pouvait lui montrer sur quel fil tirer pour défaire l'immense nœud dans son cerveau.
Vous pensez que leurs disparitions sont liées ? C'est votre théorie ?
Je n'en sais rien.
C'est vrai que c'est un peu surprenant, je vous l'accorde.
Il pose ses coudes sur ses genoux et regarde fixement le sol.
Ça me fait réfléchir, cette affaire. J'ai le cerveau en ébullition,
poursuit-il en posant un doigt sur sa tempe.
Vous avez un mystère, moi aussi, et ces deux disparitions ont peut-être quelque chose à voir l'une avec l'autre.
Vous avez déjà regardé dans ses affaires, dans ses documents, pour voir si elle ne tenait pas un journal, par exemple?
Non, jamais. Mais...
hésite-t-il.
Il y avait quelque chose de très bizarre, vraiment. Je n'ai jamais compris ce que ça faisait là.
Il jette un regard à la porte avant de regarder de nouveau Laurel.
Vous voulez voir?
Voir quoi?
Il faudrait que vous me fassiez confiance parce que vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis.
De quoi parlez-vous?
C'est au sous-sol.
Qu'est-ce qui est au sous-sol?
Cette chose bizarre qu'on a trouvée.
Laurel sent l'adrénaline monter en elle. Elle scrute le visage du jeune homme charmant assis en face d'elle.
Je peux vous le décrire si vous préférez. Ou je peux descendre et faire une photo. C'est comme vous voulez.
Pas besoin, répond-elle avec un sourire.
Je peux y aller moi-même. Envoyez un message à quelqu'un,
lui conseille-t-il.
Dites-lui où vous êtes. Moi, c'est ce que je ferai à votre place.
Elle rit. Montrez-moi, s'il vous plaît. La porte menant au sous-sol se trouve dans la cuisine. Joshua sort une lampe de poche d'un tiroir et la précède dans l'escalier en bois, qui se termine par une autre porte. Il l'ouvre, révélant une petite pièce carrée, décorée avec les mêmes meubles en pin que le salon et la cuisine. Il y a une petite fenêtre tout en haut du mur qui donne au niveau du terrain exigu devant la maison, là où il y a le cerisier, un canapé déplié en lit, une télévision, une chaise, et une pile de ce qui ressemble à des cages à hamsters sur une table contre le mur. Joshua fait glisser le faisceau de la lampe sur les cages.
Quand mes oncles sont arrivés, il y avait une vingtaine de hamsters là-dedans. Tous morts, sur le dos, les pattes en l'air.
Il mime un hamster mort avec les pattes en l'air.
Apparemment, ils s'étaient plus ou moins mangés entre eux. On n'a vraiment pas compris ce que c'était. On s'est dit qu'elle avait peut-être un élevage pour les vendre ensuite, mais on n'a pas trouvé d'autres éléments pour accréditer cette théorie. Pourquoi avoir tous ces animaux dans un sous-sol et les laisser mourir?
Laurel observe les cages et frissonne. Puis elle regarde de nouveau autour d'elle. Malgré les meubles couleur miel, la pièce est froide, nue, et il y a quelque chose de profondément inquiétant, dérangeant dans l'atmosphère.
« À quoi servait cette pièce ? » demande-t-elle en montrant les serrures sur la porte, avant de se retourner vers la fenêtre en hauteur, les branches sans feuilles du cerisier, le canapé lit, la télé.
« C'était une chambre d'amis, je pense. »
« Pas très chaleureux ?»«
Non, mais je ne crois pas qu'elle ait eu beaucoup d'amis. D'après ce que j'ai entendu, elle n'était pas très sociable. »
« Alors pourquoi avoir un lit ici, et une télé? Et pourquoi avoir ces animaux et les laisser mourir ?»«
Je vous ai dit que c'était bizarre. Je pense que ma tante était barge, un point c'est tout. Perdre sa sœur si jeune, ça l'a sûrement détraquée. »
Laurel frissonne de nouveau. Elle pense à Anna, qui a perdu Ellie. Elle pense à l'appartement sombre, sans âme, de sa fille. À son caractère si sérieux, à ses étreintes maladroites. Elle est soudain submergée par la peur qu'Anna finisse comme Noël Donnelly. À stocker des hamsters avant de disparaître sans rien laisser derrière elle, à part des zones d'ombre. Pendant qu'elle réfléchit, son œil est attiré par un objet qui dépasse dessous le canapé. Une petite chose en plastique. Elle se baisse pour la ramasser. C'est un baume à lèvres dans une boîte rose et vert vif. Parfum pastèque. Elle le fait tourner dans sa main avant de le glisser dans sa poche. Elle a l'impression qu'il lui appartient. La main de Laurel tremble sur le volant de la voiture. Elle peut encore sentir l'odeur du sous-sol de la maison de Noël Donnelly, le bois humide, la moquette moisie. Dès qu'elle ferme les yeux, elle revoit cet horrible canapé, les cages à hamsters, la fenêtre sale au niveau de la rue. En arrivant chez elle, elle va directement dans la chambre d'amis et sort le carton avec les affaires d'Ellie. Elle fouille parmi les stylos, les bagues et les barrettes. Il y a la brosse à dents de sa fille, sa brosse à cheveux, des tas d'élastiques, de porte-clés et de crème pour le visage. Et là, entre tout ça, il y a trois baumes à lèvres. Un à la papaye, un à la mangue, un au miel. Elle sort de sa poche celui à la pastèque et le pose à côté des autres. Ils vont ensemble.